Il est 9h41, l'instant M, c'est parti, profitez-en.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Ce qu'on aime bien et beaucoup sur France 3, ce sont ces soirées consacrées à des chanteurs morts. Mais les émissions culturelles font leur grand retour à la télé et avec elles, une foultitude d'artistes vivants. Comment conjuguer patrimoine et actualité culturelle, culture très populaire et artistes plus pointus? Comment faire dialoguer en réalité l'histoire et le présent? France 3 interroge et met en scène deux temporalités. Elle le faisait déjà en politique, elle s'y essaye sur la culture. Bonjour Dana Astier.
Bonjour.
Directrice de la chaîne qui lance ce soir Drôle d'endroit pour une rencontre, je me suis dit que c'était mieux de vous inviter vous que Nicolas Demorand.
Oh là !
Avant cela, on lit la presse et on se demande à quoi on joue à la télé. Bienvenue à toi, Redouane Tella.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous tous, hashtag Instant M.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors en guise d'actu revue de presse ce matin, Le Parisien aujourd'hui en France, d'abord, une page de débat, y a-t-il trop d'émissions politiques à la télévision? Écoutez ce qu'en dit Dominique Volton, chercheur au CNRS. Oui, il y a un risque de saturation, les politiques n'ont pas quelque chose à dire tous les jours. Avant, il fallait ouvrir l'espace politique, maintenant, il faut le domestiquer. La surmédiatisation finit par délégitimer la politique. À lire aussi dans Libération ce jour, les faiseurs d'histoire dans les médias, une minorité très visible. Une réflexion signée Sylvain Vénère. Les historiens sont partout, oui, mais lesquels? Seul un pan de la recherche accède au micro et à la caméra. On se doit d'interroger d'autant plus ce discours qu'il fait l'objet d'une réappropriation politique dans le débat public. Et évidemment, histoire et politique, on va en reparler avec vous dans un instant, Dana Astier. Mais d'abord, la grosse info du jour. On vous en parlait dès hier sur l'antenne d'Inter quand France Télévisions l'a annoncé. Vincent Mellet, directeur de France 2, s'est vu écarté un mois après seulement la rentrée, un mois seulement après le lancement de sa nouvelle grille. Alors, un mot d'abord, l'histoire se répète à France 2, septembre 2013, la chaîne lance en fanfare son nouveau 18h, tête d'affiche Sophia Aram. L'émission est plutôt mal fichue, la presse la déglingue jusqu'à l'obsession. Elle s'arrêtera en décembre, mais dès le mois d'octobre, Philippe Villamidiana, directeur des programmes, en a perdu son poste. Une rentrée, c'est risqué en télé. Sur la 2, on commence par sacrifier celui qui l'a pensé, puis après, ça va mieux, on peut commencer à travailler, Edouard.
Retour donc sur les fameuses après-midi de la chaîne qui, pour l'instant, ne trouve pas leur public.
Bonjour Renaud, bienvenue.
Bonjour Fabien.
Ravi de vous rencontrer.
De même.
Donc vous êtes parti avec votre fils au bout du monde pour essayer de vous rapprocher.
Oui.
Pourquoi c'est important pour vous de le raconter?
Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'avancée de notre projet, c'est que ça parlait à beaucoup de gens.
Histoire que votre histoire serve à d'autres.
Voilà.
Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers intime de l'hygiène corporelle.
Ici, on est à la maison. Moi, j'aime bien quand mes invités sont à l'aise. Voilà, donc je fais toujours un petit cadeau.
De quoi s'agit-il? C'est un... Ah, ça me touche beaucoup. C'est une balle de golf. Effectivement, c'est l'un de mes sports préférés.
Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue dans Actuality. C'est votre magazine d'actu. C'est tous les soirs en direct sur France 2. Et à partir de 17h40, on est ensemble pendant une heure. De l'actu et du divertissement, Actuality, la première émission d'actutissement.
Bon, pour vous la faire courte, mille et une vies, puis visite privée, puis Amanda, puis Actuality, c'est-à-dire quatre nouvelles émissions présentées par deux nouveaux visages, Amanda et Thomas Touroud, plus deux animateurs de France 2, mais qu'on a déplacés, Frédéric Lopez et Stéphane Bern. Vincent Mellet a fait du 14h-18h30 son absolue priorité. Son choix a été de tout casser, mais le peut-on vraiment en télé? C'est extrêmement périlleux d'entamer quatre chantiers à la fois, d'autant plus lorsqu'ils se succèdent. D'ordinaire, un directeur des programmes lance une nouvelle émission en prenant soin d'en l'encadrer par deux rendez-vous bien identifiés et bien rassurants. Le téléspectateur doit garder ses repères, la télé c'est un média d'habitude. En outre, il ne s'agit pas de n'importe quel téléspectateur à ses horaires, mais du plus âgé de toute la journée. Et c'est facile à comprendre, plus l'âge du téléspectateur est avancé, plus il lui est difficile de changer ses habitudes. Qu'on fait l'extraordinaire longévité des feux de l'amour sur la 1 et des chiffres et des lettres sur la 3.
Voilà, alors la sanction des audiences s'est montrée sévère. Les après-midi de France 2 ne séduisent plus que 6% des téléspectateurs contre 9% l'année dernière à la même époque. Et on parlait déjà de scores beaucoup trop faibles à ce moment-là.
Et l'autre question que cela pose, et celle des contenus, et même, pour être beaucoup plus direct, celle des jeux. France 2 a fait un choix bien étrange en se débarrassant de Joker, le jeu d'Olivier Mine, qui battait des records d'audience en fin de saison dernière. Les jeux n'ont plus leur place entre 14h et 18h40, le public en est pourtant friand, mais il faut se mettre à la place d'un directeur des programmes. La télé est-elle condamnée au jeu ? Le jeu est-il l'unique issue qui se présente au service public lorsqu'une case horaire est en crise ? En tout cas, sur France 2, c'est comme ça, le jeu c'est le pompier de service qui vient éteindre l'incendie. En face, sur France 3, vous, Dana Astier, en avez fait la colonne vertébrale de vos après-midi après votre inamovible série allemande.
Bilal, combien de voyelles, s'il vous plaît ?
Deux.
Deux ?
C'est une première.
Il y a une stratégie ?
Huit consonnes.
Cruel et brutal.
Féroce. Bon. Un petit peu de vocabulaire. Quel caractère du chenapan fait du boudin ? Benoît.
Le N ?
Il est dans chenapan et on le retrouve dans boudin à côté.
Quel engin ? À l'origine, destiné aux enfants, est fait d'une planche montée sur deux roues et munie, Bernard ?
Un tricycle ?
Muni d'un guidon. Planche montée, Francky ?
Une trottinette ?
Trottinette.
Des chiffres et des lettres à 16h10, suivi de Harry, de Slam et de questions pour un champion, près de 3 heures de jeu télé à la suite. Petit rappel, quand Slam fait 15% de part d'audience, à la même heure, France 2 rassemble 3% du public avec Actuality.
Alors Dana Astier, réaction, parce que les angles que Redouane a choisi posent des questions intéressantes. D'abord, la télé, elle est obligée de se renouveler, sinon elle va mourir en même temps que ses téléspectateurs qui sont déjà relativement âgés. Et en même temps, parce qu'ils sont âgés, c'est difficile de changer et c'est difficile de renouveler. Donc il y a comme une injonction contradictoire et paradoxale, on a l'impression que c'est la quadrature du cercle.
Non mais moi je crois beaucoup à un travail méthodique et c'est un peu systématique. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser que les risques on les prend en prime et pas sur un fond de grille. Mais vraiment encore une fois je suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Chacun travaille avec la chaîne qui a une histoire. Et ça, de penser qu'une chaîne n'a pas son histoire, c'est une erreur. Tout média a une histoire. Et on fait avec ce que l'on est. Donc moi, c'est vrai que je suis plus intéressée par le travail que je peux faire sur le documentaire ou le spectacle vivant en prime que par la révolution du fond de grille avec effectivement des gens qui sont plus âgés et qui ont des habitudes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaillait pas dessus. Moi, j'ai plutôt choisi de changer les visages, je n'y reviendrai pas, de changer les décors, de changer les règles du jeu. On est encore en train de travailler sur notre blog jeu et je lance de nouveaux jeux le week-end qui sont évidemment de la R&D pour voir si ce n'est pas des jeux qui un jour remplaceront
de la R&D, c'est du recherche et développement.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est deux femmes, ça fait très longtemps que des femmes n'ont pas animé des jeux et puis c'est effectivement visuellement des choses qui sont plus nouvelles. Donc voilà, après chacun travaille avec ce qu'il est et avec la chaîne dont il a hérité et puis il y a un problème de modèle économique, on n'en parle jamais, parce qu'on parle jamais argent quand on fait de la télé. Moi je crois qu'on peut parler, c'est que les après-midi, je connais pas bien les budgets de France 2, juste pour vous dire, en gros, un jeu c'est autour de 20 000 euros
par numéro.
L'émission et de par numéro et les séries allemandes c'est de l'ordre de 10 000. Donc le modèle économique fait qu'on met l'argent plutôt en prime voire en deuxième partie de soirée et ça permet là effectivement de prendre des risques et des enjeux sur les contenus.
Voilà, et ben on va parler de culture.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Le judo, on peut dire que c'est un art de l'immobilisation aussi.
Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde nos différentes prises d'immobilisation, c'est joli. Par le passé, on a fait de belles peintures sur certaines immobilisations. Et c'est vrai qu'il y a tout un art derrière tout ça. Et il y a cet art de savoir empêcher son adversaire de bouger. Ça met du temps à s'apprendre. Moi, ce qui m'anime dans mon sport, c'est ça. C'est la recherche du hippon. Le geste parfait. Devenir invincible.
Et moi, je pense que c'est ce qui anime aussi Dana Astier, c'est la recherche du hippon. Voilà, c'était Drôle d'endroit pour une rencontre, la nouveauté de la rentrée sur France 3 qui commence ce soir à 22h45. Trois interviews charpentées, Guillaume Gallienne, Yvan Jablonka, Teddy Riner, oui, un judoka, fallait y penser dans une émission culture parce que dans art martial, manifestement, il y a art. D'abord, avant de s'y plonger, s'il y a bien une directrice de chaîne qui a brouillé toutes les cartes en matière de qui fait quoi, c'est vous, Dana Astier. Vous avez choisi choisi Nicolas Demorand, qui anime sur France Inter le 18-20, c'est-à-dire une longue tranche d'actu, et questions politiques le dimanche. Donc pas forcément un visage culture.
Moi, j'ai fait de la culture avec Nicolas sur Arte, avec Laure Adler et Ali Badou il y a 13-14 ans. Donc moi, j'aime bien les retrouvailles et la fidélité. Parce que ces vies-là que nous menons, ça n'a de sens que par rapport aussi aux gens qu'on rencontre. Et je savais à quel point il était talentueux aussi pour questionner des artistes, des intellectuels. Et évidemment, je suis très sensible à ça. Donc voilà, c'est des retrouvailles aussi avec Fabrice Coat, excellent producteur, avec qui j'ai travaillé aussi sur Arte pour faire Trax et puis nos grands documentaires d'histoire.
Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit Léa Salamé qui aujourd'hui présente Stupéfiant, alors qu'elle est aussi le visage de l'émission politique sur France 2. Vous avez choisi une Wendy Bouchard qui faisait de l'actu sur Europe 1 et qui était même le visage de Zone Interdite.
Et Samuel Etienne pour animer un jeu.
Et Samuel Etienne et même un Marc-Olivier Fogiel dont les heures de talk show sont quand même assez loin et qui aujourd'hui anime un 18-20 sur RTL. Est-ce que c'est le PAF qui a changé ou est-ce que c'est la génération des animateurs qui a changé d'Anna Astier?
Je comprends pas, qu'est-ce qui vous surprend, c'est qu'on prenne des gens qui sont compétents dans un registre et qu'on le mette...
Exactement. Il y a une génération où ça se faisait pas du tout, on proposait jamais à Henri de Virieux une émission culturelle. Hein.
Oui, non, mais bon, moi aussi, je viens du documentaire, c'est très rare que quelqu'un qui s'occupe du documentaire dirige une chaîne de nos jours. Donc il faut continuer dans la surprise. Moi, je parie à chaque fois sur des intelligences et puis... ce qui est très intéressant sur France 3, le public veut avoir des animateurs qu'ils considèrent légitimes dans leur domaine. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là, d'où l'engouement par exemple pour Jamy ou Julie Andrieux. Ils sont vraiment compétents dans leur domaine et ça c'est très très agréable.
Sauf que là vous êtes en train de retricoter complètement ce que c'est que la légitimité en télévision.
Oui, mais enfin Nicolas Demorand, compte tenu aussi de son parcours scolaire, on va dire,
est tout à fait agrégé,
a tout à fait le niveau pour s'intéresser aux artistes et aux intellectuels.
Alors justement, drôle d'endroit pour une rencontre, c'est pas de la télé sur la culture, c'est la culture qui parle.
Exactement. Mmh. Et ça, pour ça, il fallait effectivement quelqu'un qui renouvelle l'interview culturelle et qui est lui-même remarquablement intelligent, aigu et effectivement redécouvre du coup des gens qu'on peut entendre par ailleurs. Mais bon, on a aussi un Jablanka qui fait un travail passionnant d'historien sur le fait divers. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Le fait divers, qu'est-ce qu'il dit de notre société? Donc moi, ça me donne aussi envie de tirer ce fil-là, y compris sur la chaîne.
Qui les fait parler et qui vous faites parler? Oui. Parce que quand je le disais que France 3, c'était la chaîne des artistes morts, ou presque, et c'est une blague, mais en même temps, on les aime beaucoup. Hein. C'est Brassens, c'est Renaud, c'est Sardou, c'est Ferrat, c'est Goldman, c'est Balavoine, c'est Dassens, c'est Claude François, à qui vous avez consacré de multiples soirées.
Tant que ça.
Bah, si, quand même. Tout ça, c'est
Didier Varro de cette maison appréciera.
Oui, mais oui.
Puisque nous travaillons aussi beaucoup avec lui.
Mais c'est vraiment ça l'enjeu. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites dialoguer? Comment est-ce que vous conjuguez ce qui est de l'ordre de la culture populaire et réellement du patrimoine? C'est-à-dire, c'est quand même vraiment plus des gens d'aujourd'hui. Et comment
alors,
vous insérez là-dedans?
Ouais, justement. Alors, justement, regardez le travail de Didier Varro. Il s'intéresse à des gens qui sont souvent morts, mais réinterprétés et qui résonnent encore pour la jeune scène. Si je fais une émission sur la jeune scène française, qui Dieu sait est riche et passionnante, je sais que personne ne viendra. Par contre, de faire découvrir à des gens qui aiment Brassens ou qui aiment Coluche, de les faire redécouvrir par des gens qui aujourd'hui travaillent sur cette matière. Enfin bon, voilà, moi c'est vrai que je ne crois pas à la génération spontanée.
C'est exactement
spontanée.
Ce que vous faites avec même le dimanche avec Dave et
oui,
Wendy.
Oui, on mélange les générations.
C'est ça, un Salvatore Adamo et une Joyce Jonathan. Ouais. Donc voilà. Mais vous avez quand même un truc avec la chanson. Je vous passe l'extrait d'un doc d'une soirée. C'était un prime sur France 3. Moi, à l'époque, les bras m'en étaient tombés.
Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. Et j'en ai déjà fait, mais toujours le poids levé.
Vous n'avez qu'une philosophie, alors celle du poids levé, ou être accepté comme vous êtes.
Ouais, c'est une super chanson. Voilà. Dans le fond, je suis un peu une fille de banlieue et ça me parle. Enfin, c'est vraiment ma langue de A jusqu'à Z. Pendant longtemps, ça a été la sonnerie de mon téléphone, jusqu'à ce que je me fasse pourrir en me disant que c'était pas possible d'avoir ça comme sonnerie de téléphone.
Pourquoi?
Parce que je crois que je faisais honte à mes enfants, à peu près.
Voilà, ça c'était Cécile
et
Duflo.
Et en quoi c'est honteux ça,
j'ai pas dit que c'était honteux, j'ai dit que les bras m'en étaient tombés. Donc c'était Mireille Dumas qui faisait raconter à Cécile Duflo, Rachida Dati, François Bayrou, Mélenchon, Raffarin, leur vie en chanson.
Ah mais moi j'ai trouvé ça, pour le coup, passionnant. Parce qu'on apprend des choses, par exemple ce que dit Bayrou, sur son histoire avec son père, comment il a lutté contre le bégaiement, qu'est-ce que ça veut dire d'être agrégé de lettres avec un père taiseux. Franchement, je trouve ça passionnant.
L'homme politique est-il un people comme les autres, Dana Astier ?
C'est un personnage romanesque, pour moi, clairement. Et c'est pour ça que j'aime tellement la politique. Enfin, je l'aime aussi parce qu'il se trouve que c'est là, pour le coup, aussi ma formation universitaire. Donc, je me destinais à être professeur de sciences politiques. Donc, c'est vrai que c'est mon truc.
Mais là,
mais
on
c'est
sent
aussi
bien que
des
le
personnages.
Cran d'après, on sent bien que le cran d'après, c'est Ambitions intimes. Ce que va proposer M6 dimanche avec Karine Le Marchand.
Ce que vous dites est désobligeant et je ne pense pas du tout qu'on en soit là. Vraiment pas du tout.
Alors, justement.
Mais par contre, mais c'est vrai que moi, ça m'intéresse à travers ces chansons, à travers ce documentaire de Mireille Dumas, j'ai découvert des gens vraiment très très touchants et très intéressants, fragiles. Après, ça n'empêche pas de faire des choses beaucoup plus sérieuses telles que nous les faisons.
Oui, alors là, il y a un programme extrêmement costaud. Hein, il y a un mois de documentaire politique extrêmement fourni et plutôt de haut niveau. Mais c'est tout l'intérêt du documentaire et toute la question que pose le documentaire. C'est-à-dire, c'est une heure et demie de conversation avec un homme politique à travers des archives, un regard, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont combattu. Et justement, c'est ce mélange entre un portrait humain et un portrait politique que vous allez proposer tous les lundis soirs.
Exactement. Non, c'est vrai que on n'est pas à la fac, c'est pas un cours de sciences politiques, mais on essaye à la fois de traiter du fond, mais aussi de comprendre qui sont ces individus, parce que quand même, faut y aller aujourd'hui. C'est quand même un monde d'une violence rare. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir quel est le moteur qui fait qu'aujourd'hui, on y consacre 40 ans de sa vie à se faire bâcher, à avoir quand même des marges de manœuvre assez limitées.
Et alors, en quoi ça se distingue et ça se différencie du plateau de l'émission politique que toutes les chaînes cherchent à renouveler et à réinventer cette année ?
Je pense que vraiment, on a l'épaisseur du temps qui change tout. Il y a une dimension, il y a l'effet de l'histoire, comment ces gens-là ont traversé des décennies. Et je pense que vraiment, vous verrez à la fin de tous les portraits que l'on a fait, on fait aussi un feuilleton documentaire.
Il y a Juppé, il y a Sarkozy, il y a Macron, il y a Hollande, il y a Marine Le Pen.
C'est vraiment, ça participe à ce que l'on doit savoir sur un tel ou un tel. Je trouve ça vraiment assez fascinant.
Merci beaucoup Dana Astier. Drôle d'endroit pour une rencontre, c'est pas ce soir, c'est demain soir à 22h45. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sonia Dugger.
Allez, grand bien vous fasse.
Eh bien ce matin, on se demande ce qui se passe dans notre cerveau quand nous tombons amoureux. L'amour modifie-t-il la structure et l'activité du cerveau? Quel rôle jouent certaines hormones dans le coup de foudre ou dans l'attachement entre deux amoureux? Bref, la flèche de Cupidon laisse-t-elle des traces cérébrales?
Eh bien ce sera tout à l'heure après les infos.